إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، شفاف السجس dont allons débattre ce soir, Inch'Allah Ta'ala, c'est un sujet qui est composé de plusieurs points. Et chacun de ces points, en fait, nécessite une conférence à lui tout seul. Tellement ils sont importants. Et ces points, ce sont les moyens grâce auxquels ou dont a besoin le musulman pour conserver la droiture, la chasteté, la ifa, donc la chasteté. Bien sûr, ici, on s'adresse aux hommes et aux femmes. On s'adresse tous, toutes les raisons, les moyens de conserver la chasteté s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, on dit que chacun de ces moyens nécessite une conférence à lui tout seul, et vous allez voir quand on va les citer qu'il en est ainsi. Le premier de, ou bien on va faire une petite traduction en arabe tout d'abord. إذن موضوعنا اليوم أسباب تحقق العفة، كيف يصل المسلم والمسلمة إلى العفة وخاصة الاحتفاظ عليها. فكما سترونه كل هذه الأسباب تحتاج إلى محاضرة مستقلة نظرا لأهمية هذه النقاط وأهمية هذه المواضيع. Le premier moyen, comme vous en doutez tous, quel devrait-il être? Le premier moyen, le plus important pour conserver avant le mariage, il y a quand même autre chose. J'ai entendu là quelque chose avant le jeûne. C'est l'iman ou le taqwa. Le premier moyen, c'est bien sûr avant tout l'iman ou le taqwa. Parce que ici, c'est ça, on dit le mariage. Combien on en connaît qui sont mariés? Pourtant, ils ont des débordements à gauche et à droite. Bien sûr, il y a combien de gens qui sont mariés et pourtant, ils ont pas plus, ils ont 5-6 concubines ou là. Donc le mariage en tant que tel, s'il n'est pas accompagné de l'imam, ça ne sert à rien. Et aussi ce qui prouve cela, c'est le hadith. Il date à Zawaj al-Abd, faqad istakmala, nisfa dini, faqad yattaqillah, fi nisfa al-akhar. Donc comme le prophète Hassan dit, on va le citer plus tard, mais comme preuve de cela, le prophète Hassan dit, lorsque la personne se marie, il a obtenu la moitié de sa religion, mais qu'il craigne Allah dans l'autre moitié. Donc le mariage en lui-même, ou tous les autres moyens, ne suffisent pas. D'abord, avant tout, c'est l'iman, billah wa taqwa, taqwa Allah azza wa jalla. Donc la crainte d'Allah azza wa jalla, la foi, une foi profonde, et la crainte d'Allah azza wa jalla. Qu'est-ce qu'on entend? Quels sont les fruits de cette foi? C'est que la personne est convaincue qu'Allah azza wa jalla connaît les moindres détails de sa vie, de ses mouvements, de ses pensées. M'interface soudour, ce que cache le poitrine, Allah azza wa jalla le connaît. Rien ne lui échappe. C'est, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, al-muraqab al-ihsan. C'est que la personne sache que Allah azza wa jalla le voit constamment dans tout ce qu'il fait, même dans ce qu'il cache. Donc, au fond de lui, comme pensée, Allah azza wa jalla est au courant de cela. Et on a eu des exemples, beaucoup d'exemples, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous prouvent cela. Qui peut me donner des exemples de gens qui ont été cités dans la sunna comme exemple et qui allaient perdre justement cette notion de chasteté et grâce à leur foi en Allah azza wa jalla et leur crainte d'Allah Azzawajal et l'espoir de trouver la miséricorde d'Allah Azzawajal de rentrer au paradis, ils se sont éloignés de cette turpitude. Ashabul Ghar, le hadith où le prophète raconte l'histoire des trois qui ont été enfermés dans la caverne. Donc une pierre leur a obstrué la sortie de la caverne et un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez l'histoire. Il a dit, j'avais une cousine qui était la femme que j'aimais le plus au monde. Et il voulait absolument entretenir des relations avec elle, par n'importe quel moyen, dans le haram ou autre. Et un jour, enfin une année, est tombée sur eux la famine. Une famine sans précédent. Ce qui a poussé cette pauvre fille, pour se nourrir, à chercher de l'argent par n'importe quel moyen. Et en allant le voir lui, il lui a dit, voilà, moi, je te fournis cette somme dont tu as besoin pour survivre, mais à une condition, c'est que tu me laisses faire ce que j'ai envie de faire. Et juste au moment où il allait accomplir la fornication et la turpitude, qu'est-ce que cette fille lui a dit? Taqillah, crains Allah Azzawajal. Et il est revenu à ses esprits, comme on dit, la crainte d'Allah Azzawajal a eu le dernier mot. Et ensuite, vous connaissez la fin de l'histoire, il a dit à Allah Azzawajal, si Seigneur, je fais ça pour toi, pour rechercher ton agrément, ta satisfaction, que la pierre bouge d'un cran. Et jusqu'à la fin du service, les deux autres aussi, et pour finir, ils ont sorti donc de la caverne. Donc ici, on voit, c'est un exemple frappant, flagrant, de la crainte d'Allah Azzawajal, qui a empêché ces gens, ces personnages, de tomber dans la turpitude. Alors que tout était facile pour lui. Tout était facile pour lui, tout était mis à sa disposition. Personne ne le voit, personne ne risque de le dénoncer, personne, aucun problème. Mais c'est la crainte d'Allah Azzawajal seul qui l'a fait. Un autre exemple aussi, dans le Coran par exemple, s'il n'y a pas un exemple, Yusuf alayhi salam, le prophète Yusuf alayhi salam aussi, c'est la crainte d'Allah Azzawajal qui l'a fait, qui l'a protégé. Un autre exemple encore, dans la Sunna, les sept qu'Allah Azzawajal recouvre de son ombre, le jour où il n'y a plus d'ombre qu'à la sienne. Aussi, qu'est-ce que, parmi ces sept-là, l'homme qu'une femme belle, parce qu'une femme belle a appelé à commettre la fornication, et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a khafullah. Il a dit, je crains Allah Azzawajal, je crains le châtiment d'Allah Azzawajal. Donc ce sont tous des exemples pratiques de gens qui avaient toutes les facilités. C'est même pas lui, il n'a même pas dû rien dans une erreur. Il n'a même pas dû aller courir après la fille, commencer à se parer, à faire 2-3 années de bodybuilding, acheter des beaux vêtements, mettre des parfums. Non, c'est la femme qui lui a dit, viens. Tout est prêt. Il a plus qu'à faire 2-3 pas, et c'est fini. Hein? C'est une grande preuve. Et pourtant, la crainte d'Allah Azzawajal a surmonté cela. Bien sûr, si les gens se sont en degré, il y en a un comme celui-là qui a atteint plus au degré. Avant tout, il dit, il n'y a khafullah, directement il a fait l'esprit. Il y en a d'autres, ils vont être, Shaitan va recouvrir leurs esprits. Ils vont tomber dans cet acte, et après ils vont se repentir, ils vont repentir sincèrement, ils vont avoir un regret amer. Et il y en a d'autres, voilà, Alhamdulillah, ceux-là dont les cœurs sont noirs, ça ne leur fait rien du tout, ni chaud ni froid, au contraire, ils recherchent encore d'autres occasions par la suite. Donc, mais on voit ici, c'est à travers ces exemples, des exemples concrets et pratiques de ces gens que la foi en Allah Azzawajal, de la crainte d'Allah, a protégé. Et un sabab al-awwal, li tahqiq al-'iffa, huwa tab'an al-iman billah wa taqwa. Wa hunaka 'iddat amthila waradat fi sunnah an-nabawiyyah as-sahiha min unas taqwa ja'alahum yatajannabun الفواحش. ومن هذه الأمثلة الحديث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هناك سبعة يظلهم الله يوما لا ذل إلا ذله. ومن هذه ومن هؤلاء الرجال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وما كان جوابه إني أخاف الله. ردعه تقواه عن الوقوع في الفاحشة. وكذلك المثال الثاني المعروف الثلاثة في الغار، أحدهم عندما استسلمت ابنة عمه يعني وكاد أن يفعل بها الفاحشة، ذكرته بالله عز وجل في اللحظة الأخيرة ويعني قام وذهب. وهناك أمثلة كثيرة أخرى، منها قصة يوسف عليه السلام في القرآن كذلك خير مثال على ما ذكرناه. السبب الثاني لدوزيم موين كي cette fois-ci certainement cité tout à l'heure le mariage. Le deuxième moyen الزواج le mariage. Et malheureusement parmi justement ça peut rentrer dans la collection là des conceptions à corriger, c'est que à notre époque on se marie très tard. C'est devenu courant chez les hommes et chez les femmes de se marier très tard, de repousser le mariage. Maintenant, c'est très très étonnant si quelqu'un avant 20 ans il se marie, c'est vraiment très étonnant. Tout le monde est étonné. Quand c'est même pas 20 ans, il est déjà marié là. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Même pour les femmes, là, mais surtout pour les hommes. Alors que justement, la législation chara nous a poussé à se marier très jeune, justement pour nous préserver de tomber dans la turpitude. Et il y a beaucoup d'ahadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé donc les jeunes, et Allah azza wa jalla en premier dans le Coran a poussé les gens au mariage. Allah azza wa jalla dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Faites marier ou marier ceux qui n'ont pas. L'ayama, ce sont les hommes ou les femmes qui ne sont des célibataires, qui n'ont pas, ou plus généralement qui n'ont pas d'époux. Mariez ceux qui n'ont pas d'époux et d'épouses, bien sûr, ça, d'entre vous. Et même les esclaves. Donc ici, Allah pousse justement les croyants, c'est une bonne action d'aider les autres à se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans un hadith authentique que beaucoup d'entre vous connaissent a dit « Ya ma'ashar al-shabab » il parle ici plus spécialement aux jeunes. « Oh vous les jeunes, men istata'a minkum al-ba'ata fa yatazawwaj » celui d'entre vous qui est capable, qui a la capacité physique de se marier, « fa yatazawwaj » qu'il se marie, « fa innahu aghaddu lil-basar » car il préserve le regard, il fait baisser le regard. وأحسن للفرج et il préserve le sexe de tout rapport illicite. Donc ça c'est certaines des raisons, des sagesses que nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici en nous poussant à nous marier. Et aussi le hadith qu'on a cité tout à l'heure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance du mariage, que ce n'est pas une chose anodine, que ça fait partie de la protection de la foi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc il dit, lorsque la personne se marie, il a complété la moitié de sa religion, qu'il craigne Allah azza wa jal dans l'autre moitié. Donc ici le mariage ce n'est pas une coutume, où ça fasse partie de la culture, non. C'est quelque chose qui a été établi pour préserver la religion de la personne, pour préserver son adoration, sa foi. C'est une adoration en tant que telle. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Pour eux, le mariage, c'est juste, il faut se marier, donc faut bien qu'on se marie un jour, ben, on va faire comme les autres, on se marie. Sans chercher à travers cela à préserver sa religion. Avec, bien sûr, les autres sagesses qui en découlent, comme avoir une progéniture pieuse, des enfants pieux, etc. Que l'islam nous a poussé également à avoir. إذن السبب الثاني والزواج. وهناك نصوص كثيرة حثت المسلمين على التزويج وعلى الزواج المبكر. ومن الملاحظ في الجالية الإسلامية أن الكثير يؤخرون الزواج إلى سن يفوق 20 أو أكثر، بحيث صار الكثير يتعجبون عند خبر أحد الشباب يعني تزوج وهو ابن 29 سنة أو 19 سنة أو أقل من 20، صار العمر عجب عند الكثير. وسبحان الله، هذا من التناقضات. عندما كانت المجتمعات عفيفة وطاهرة يعني بشكل عام في العصور الأولى في صدر الإسلام، كانوا يتزوجون يعني مبكرين بسن يعني قبل 20 أو حتى في ممكن ابن 15 سنة يتزوج. والآن ونحن نعيش في المجتمعات التي نعيش فيها ونؤخر سن الزواج، هذا يعني في حقيقة من التناقضات التي للآن تحير عقول الوقت. كان المفروض أن يكون العكس، هم ممكن أن يؤخروا زواج شيئا ما لقلة الفتن والمغريات الموجودة، أما في هذا المجتمع في هذا العصر في كثير من الأمكنة كان المفروض أن يكون العكس. إذن هناك نصوص كثيرة، وكان الآية والحديثين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكذلك الحديث الثاني إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. وهناك نصوص كثيرة تحث على الزواج. والسبب الثالث الحياة، la troisième cause, la troisième raison, la troisième cause pour préserver, le troisième moyen pour préserver la chasteté, c'est la pudeur. La pudeur qui est malheureusement devenue une denrée rare de nos jours. Et surtout chez beaucoup de nos sœurs. Bien sûr, chez les hommes aussi, il y a un manque de pudeur, c'est clair. Chez les jeunes, que ce soit au niveau de leurs pantalons serrés, au niveau dans le sport, etc., dans les douches, tout ça fait des choses qui sont là où le bas blesse le plus, comme on dit, c'est surtout chez les sœurs, où ça fait plus de dégâts. Et malheureusement, encore parmi nos contradictions, c'est que c'est devenu le contraire. L'homme, normalement, il lui est interdit d'avoir des vêtements qui dépassent ses chevilles, et pourtant aujourd'hui, machin, tous les musulmans, ils ont des vêtements qui partent dans toutes leurs chevilles. Et la femme, qui elle, normalement, doit avoir un enfant en dessous, on les trouve, c'est pas mis sous sarre, c'est fils, hein. C'est pas seulement un mi-mollet, c'est au-dessus, mi-mollet, ça c'est la pudique de nos jours, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à mi-mollet. Et maintenant, ils ont même fait une mode, hein, des pantalons courts pour femmes, pirates pour femmes. J'en veux la rêver. Subhanallah. Le contraire de ce qu'il faudrait, subhanallah, shaitan, comment il change la création. Le contraire de ce qu'il devrait être. C'est également un peu, c'est exactement le contraire de ce qu'il devrait y avoir. Tout ça, la semaine shaitan. Il a dit, je vais changer la création. Et tout ça, et nous, on tombe vraiment dans son guet-apens. Bien sûr, les textes qui poussent à la pudeur sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahihain, dans le Bukhari Muslim, Al-Haya khayrun kullu. Il dit la pudeur est un bien total. Il y a tout est bon dans la pudeur. Il n'y a pas de mauvaise pudeur. Il n'y a pas de mauvaise pudeur. Ne pas confondre la pudeur avec la gêne. Hein, la gêne de poser des questions, par exemple, dans la religion, si c'est pour ça, là, ça c'est autre chose. Lakin, dans la pudeur, il n'y a pas de mauvaise pudeur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, Al-haya'u wal-iman qarana jami'an. Il dit la pudeur et la foi sont liées l'une à l'autre. La pudeur et la foi sont liées
نعلق إلى فان الحديث فإذا رفي أحدهما رفي الآخر. Il dit, si un de Dieu n'est plus présent, l'autre ne l'est plus non également. Si l'un de Dieu disparaît, l'autre aussi disparaît. Donc ce sont deux choses liées, la foi et la pudeur. Si un Dieu disparaît, l'autre disparaît également. Les deux ne peuvent pas être, un ne peut pas aller sans l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna li kulli dini khuluqa » Chaque religion a son comportement, on va dire, qui n'est pas spécifique mais sur lequel il insiste beaucoup, et il dit « Wa khuluqa l'islam al-hayat » Et il dit « Le comportement de l'islam, c'est la pudeur. » Le comportement de l'islam, c'est la pudeur. Et le hadith est rapporté par le Hakim, c'est un hadith authentique. Et beaucoup d'autres textes également qui parlent de l'importance de la pudeur. Mais malheureusement, quand on regarde de nos jours, le plus grave, ce n'est pas que ce sentiment de pudeur disparaît, mais c'est qu'on ne connaît plus ce que c'est la pudeur. Aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, tellement qu'on a été loin, la pudique ou la pudeur, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, une robe à mi-mollet, un petit peu, quelque chose un petit peu large qui couvre ici, et des cheveux un petit peu regroupés, c'est la pudeur. Alors que, normalement, on n'a pas un islamique, c'est une catastrophe, déjà. Mais tout ça parce que justement, nos conceptions ont changé, et notre négligence. Les choses font que nos conceptions ont tout à fait changé. Nos critères ont tout à fait changé avec le temps. إذن قلنا السبب الثالث الحياء. وما أدراك ما الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان والحياء قرنا جميعا. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء بهذه المثابة أنه مقرون بالإيمان. لا يستقيم أحد الطرفين، أحد الجانبين إلا بوجود الآخر. وتعلمون كذلك الحديث الحياة خير كله، ليس هناك حياة مذموم، الحياة خير كله، ولكن انعكست مفاهيمنا، والحياة عندنا صار ما كان يعتبر تبرجا وتبرجا فاحشا في العصور الأول من الإسلام، ولكن صار اليوم عندنا يعني من الحياء كما وصفنا بعض الأخوات التي ولباسها تعتبر اليوم لباس حياء بين قوسين عند الكثير من المسلمين، ومع أن هذا المنظر تبرج يعني واضح. La quatrième raison, ou la quatrième moyen de protéger la chasteté, c'est l'interdiction de se retrouver seul et de rester seul avec, pour la femme avec un homme et pour l'homme avec une femme. Al-khulwa. Le fait donc de rester seul, isolé avec le sexe opposé. Et bien sûr aussi la mixité. Et les textes encore là sont très nombreux et très éloquents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yakhluwanna rajulun bimra'a illa wa ma'aha dhu mahram » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne ne s'isole avec une femme sans qu'elle ait avec elle un mahram. Qu'est-ce que c'est le mahram? C'est toute personne qui est interdit en mariage à la femme. Interdit pour toujours. Soit par lien de parenté, comme son frère, etc., son père, son frère, soit par l'allaitement, le frère de lait, etc., ou aussi par mariage, comme son beau-père, etc. Donc ça c'est el-mahram. El-mahram, c'est pas son beau-frère, le frère de, comme beaucoup imaginent, le frère de son mari, ou là son cousin, je me promenais avec mon cousin,
Ça, c'est pas un mahram, au contraire. Ça, c'est muharram, c'est pas mahram. C'est le maut, comme a dit le prophète, c'est le hamoul maut. Il dit, le prophète, il dit, le proche, les proches du mari, c'est la mort. Pourquoi? Les savants ont plusieurs explications, voilà qu'une parmi les plus fortes explications, une des opinions les plus fortes, c'est que ils attirent moins l'attention que les étrangers. Un étranger, par exemple, si la femme est à la maison, il va venir sonner comme ça, et il va rentrer dans les gens du café, ou quoi, ça va les frapper. Ils vont dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais, si c'est son frère, ou là, il dit, ouais, ben, sûrement, il s'arrange avec lui, peut-être il est là, ouais, ben, il rentre, et ça attire pas tellement l'attention. Il y en a, c'est toutes les explications. Alhamdoul Mawt. Donc, le mahram, bien comprendre ce que c'est, le mahram, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est, le mahram. Et le prophète a été dit aussi dans un autre hadith, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. Notre prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il ne s'isole pas avec une femme sans qu'il ait avec elle un mahram. Car le troisième parmi eux c'est Shaitan. Le troisième avec eux c'est Shaitan. Shaitan justement qui enjolive la situation. Il met du miel, du sucre sur la situation. Peut-être qu'il attire la femme vers l'homme, etc. Et il dit à personne, et etc. Moyen. Il est là pour enjoliver la situation. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il fouille, et comme on dit, il s'enlève les mains. Et là, la personne, il tombe de très haut. Donc, Yanni, tous ces hadiths sont très clairs dans la question. Et malheureusement, on a vu que beaucoup de cas très graves sont arrivés justement à cause de la négligence de ces points-là. À cause de la négligence. Et bien sûr, si on peut citer d'autres cas qui arrivent souvent, qui ne sont pas toujours considérés comme khulwa proprement dit, mais qu'il faut tout à fait proscrire et qui remplissent dans le deuxième point qu'on a cité, la mixité. Par exemple, on remarque beaucoup de jeunes, ils vont chez leurs amis, pour une raison ou pour l'autre, et il y a les sœurs de l'ami qui rentrent dans le salon, etc., et qui discutent avec tout le monde ensemble. Mais elles pensent qu'il y a le frère, qu'il y a la voilà. Si on sait, et c'est sûr, seulement il y a la mixité, en plus de ça, ce sont des jeunes, donc ça va conduire à un mal, quel qu'il soit. Ça aussi, c'est des choses à proscrire. Même si le frère, il est là, le frère, par exemple, voilà, non seulement c'est de la mixité qui est interdite, et en plus de ça, les conséquences auxquelles ça peut amener. Et les hadiths sur la mixité, il y en a beaucoup. Le prophète Hassan dit, « Yakum wa dhukhul al-nisa » Il dit, « Faites attention, prenez garde, surtout ne faites pas de rentrer chez les femmes. » Et également, vous savez que dans la mosquée du prophète Hassan, il n'y a pas de cloison. Et le prophète Hassan, après les prières, restait assis pendant tout un moment. Et les compagnons du prophète Hassan disaient, il faisait cela, on voyait qu'il faisait cela, pour que les femmes aient le temps de sortir. Et également, un jour, le prophète Hassan a vu à la sortie de la mosquée qu'il y avait une sorte de mélange entre les uns et il s'est mis en colère. Et également, un jour, le prophète Hassan a vu à la sortie de la mosquée qu'il y avait une sorte de mélange entre les uns et il s'est mis en colère. Il a dit aussi aux femmes, « Laïsa lakoun mewassut tariq » Il a dit, « Vous n'avez pas, ne vous appartient pas le milieu de la route, du chemin, écartez-vous. » Donc tout ça, ce sont des textes qui sont clairs dans le danger et l'interdiction de la mixité. Et encore une fois, notre négligence a conduit dans des cas très graves. C'est des cas qu'on n'a pas besoin de citer. Chacun d'entre nous, souvent, en a déjà entendu parler. Et ce sont des cas qui sont arrivés justement à cause de la négligence de cette femme. Pourquoi? Parce qu'on est naïf. Beaucoup, même de parents, se disent, c'est pas grave. Soit ils sont jeunes, soit ils prêtent une trop bonne intention. Ils croient que tout le monde sont des anges, que leurs enfants sont des gens, que les amis, qui pensent à rien de mal. Vous voyez qu'ils nous oublient que l'être humain reste un être humain. Et quand c'est trop tard, à ce moment-là, là, il tombe de haut, comme on dit. Donc c'est la négligence de tous ces points-là qui a amené ce genre de cas. السبب الرابع تحريم منع الخلوة والاختلاط. وذكرنا الأحاديث بالعربية كذلك لا داعي لي إعادة ذكرها. وفقط ما هو المحرم المذكور في هذه الأحاديث؟ المحرم هو كل رجل يعني لشرح هذه الأحاديث يعني المعني في هذه الأحاديث هو كل رجل يعني يحرم تزوجها أو يحرم تزوجه ويحرم زواجه مع المرأة إما بسبب النسب أو بسبب الرداء أو بسبب المصاهرة بإحدى هذه الأسباب. On peut encore citer tout de même certains aspects de l'khulwa qui arrivent souvent et qui sont méconnus chez les musulmans. Par exemple, lorsqu'on a appelé aujourd'hui les fiançailles, entre guillemets. On ne sait pas depuis quand il y a des fiançailles en islam, voilà qui. Les fiançailles. Qu'est-ce que c'est les fiançailles? Les fiançailles, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire que, enfin, on peut apprendre à connaître. La fille d'ailleurs, on se demande bien pourquoi. Parce que s'il apprend à connaître, il est sûr qu'il va se marier avec. C'est qu'il a quand même perdu, parce que s'il la connaît, qu'elle lui plaît pas, il va quand même se marier avec, selon sa déclaration. Et si elle lui plaît pas, alors quoi, ici il y a une contradiction. Parce qu'il dit, non, moi c'est fini, je veux me marier avec cette fille, mais j'apprends un peu à la connaître. On se demande pourquoi il apprend à la connaître. Et ça souvent dans les fiançailles, beaucoup de gens croient que c'est permis. Une fois qu'on a l'intention, à peine l'intention de se marier avec lui, de faire connaissance, de se trimballer, de faire des petites promenades à gauche et à droite. Et tout ça, bien sûr, c'est tout à fait haram. Parce que c'est une femme tout à fait étrangère. Sauf si les conditions de mariage ont été remplies. L'art, le lac charaï, etc., avec tout ce que vous connaissez qu'on connaît à ce moment-là. Non. Mais avant cela, il n'y a pas de fiançailles, ni de sortie, ni rien du tout. Ou bien c'est une sortie, comme on dit, mais sortir dans l'acceptation occidentale du terme, une sortie. Mais en islam, il n'y a rien de tout ça. Parmi également, dans ce qu'on a cité, on en a un petit peu parlé, les proches du mari, etc., qui rentrent chez la femme de son frère, etc., en son absence. Également, et ça, il faut faire attention à ça, même nous, parfois, on est confrontés à ça, il y a parfois des endroits qui sont un petit peu reculés, comme certains magasins couverts, etc., et on rentre et on sait que c'est pas une servante ou la femme, une femme qui est seule là dans le magasin, il faut faire attention à ça, et la femme également. Car le khulwa, c'est tout ce qui peut mener à semer le doute chez ceux qui voient la personne sortir de là. Il aurait pu se passer quelque chose, ça sème le doute, c'est ça le khulwa. Donc quand on rentre dans ce genre de parfois de magasin, tout à fait couvert ou un peu retiré, etc., où personne ne nous voit réellement, c'est aussi considéré comme un khulwa, avec la vendeuse, etc. Donc ça, c'est la façon même pour les hommes. Bien sûr, également, parfois on est lié à ça, et par gêne, on monte dans les ascenseurs. Parfois on a le cas. On attend l'ascenseur, puis il y a une femme qui vient. Il ne faut pas être gêné, c'est-à-dire, allez-y. Je prends le suivant. Ou je descends par les escaliers, maintenant. Parfois on rentre là, ça c'est le khulwa aussi. Tu descends 5-6 étages avec la femme seule dans l'ascenseur. C'est le khulwa, elle est vraiment... En plus de ça, ce train-là, ça arrive pas, il reste bloqué, ou là, il fait ces choses. Là, c'est une moussiba complète. Hein? Ah non, ça arrive, les amis. Donc, ça aussi, par contre, faire attention, c'est le couloir. Dans les hôpitaux aussi, etc., faire attention, il faut se renseigner à l'avance. Pas la dernière minute. Quand la femme va coucher à deux minutes, on va, oui, il n'y a pas un médecin, non, il n'y a pas une femme médecin, non, il n'y a pas. Là, tout ça, il faut un peu faire attention à cela. Et préparer, comme on dit, cela à l'avance. Également, dans les cas qui arrivent souvent, c'est des jeunes qui s'échangent les cahiers d'école ou qui vont revoir. Alors, il va revoir avec sa copine d'école ou il va revoir avec, faire des révisions ou tout ça. Tout ça aussi, c'est parmi l'Ikhla, parmi, comme on dit, Al-Khulwa. C'est parmi les aspects de l'Khulwa et tout cela, bien sûr, est totalement interdit. إذن من بعض نذكر الآن بعض مظاهر الخلوة المنتشرة يعني في هذه الأيام منها الخلوة في المصاعد الكهربائية وكذلك يعني خلوة التلميذ
ليس بالأستاذة فقط بزميلته يعني في وهما في نفس يدرسان في نفس الفصل وبحجة يعني مدارسة ومذاكرة الدروس وإعارة الدفاتير وإلى غير ذلك وكذلك في المستشفيات وما الأطباء وكذلك في الدكاكين والمحلات التجارية إلى غير ذلك من مظاهر الخلوة. السبب الخامس le cinquième moyen c'est le fait et cela s'adresse plutôt aussi à la femme le fait l'interdiction de ressembler de chercher à ressembler aux, bien sûr aux hommes dans les vêtements et ça bien sûr c'est vice versa et aussi de chercher à ressembler dans ses vêtements bien sûr ça avec le cerveau aussi pour les hommes mais les dégâts sont plus flagrants chez les femmes, à chercher à ressembler dans ses vêtements aux fasiqat, même parmi les musulmanes ou aux kafirat. Et ça, c'est aussi un point qui fait des dégâts énormes. Bien sûr, vous connaissez le hadith, où le prophète a maudit les femmes et les hommes qui cherchent à ressembler aux autres, donc l'homme qui cherche à ressembler à la femme, et la femme qui cherche à ressembler à l'homme. Et parfois, on voit ça. Des cas des filles, Hermas, jeans, peau de poche, Adidas. Il manque toute la petite moustache, je vais au coin de la rue, on remarque parfois de se prendre. Elle a juste gardé un peu les longs cheveux. Mais se prendre là, ça rentre dans le hadith tout à fait. Et on voit parfois plusieurs fois, on voit de ce genre de filles. Et également donc, dans l'autre hadith, le prophète Hassan dit, parmi ceux à qui Allah ne, n'adresse pas la parole, qui ne regarde pas ça, c'est aussi donc la femme qui cherche à ressembler aux hommes. Et même chose bien sûr pour les hommes, bien que c'est un peu plus rare. Mais parmi les points qui sont très propagés, c'est l'influence qu'exercent les fasiqats, les dévergondés et les kafirats sur beaucoup de sœurs musulmanes. Et cela à travers les moyens, les médias, les moyens d'information, les catastrophes qui passent à la télévision, MTV, compagnie, les clips vidéo, les Space Girls, ou je sais pas quoi, Madonna et autres. Tout ça, bien sûr, ça exerce une influence sur les sœurs qui n'ont pas de personnalité et qui n'ont pas de digne. Parce que pour elles, c'est un modèle. L'argent, la liberté, la grande vie, le grand train de vie, etc., joli. Hein? Pour elles, c'est, ça devient un modèle, ou alias, de dévergondés, ou les mannequins, etc. Donc ça aussi, il faut, le moyen, le remède pour cela, c'est bien sûr l'iman, da'wa ila Allah, et fortifier la personnalité islamique et la fierté de connaître les ancêtres de ces femmes, les femmes du prophète, etc., qui étaient elles vraiment qui doivent être leur modèle, et pas ces mannequins de Zazmondé et autres chanteuses et actrices et autres. Mais le problème justement, c'est que la méconnaissance de ces modèles fait que, et le peu de foi et le vide, le manque de personnalité fait que c'est ces choses-là qui sont prises en modèle. Et bien sûr, ça fait les dégâts qu'on voit. Suivre la mode, etc. Donc ça c'est une autre moyen pour éviter donc l'interdiction de ressembler dans les vêtements aux fasiqat et autres, parce que ça fait bien sûr des dégâts. Vous savez que ces femmes-là, elles ne s'habillent pas avec des vêtements pudiques, hein, pour le moins dire. C'est des vêtements catastrophiques dans la plupart des cas. Et si la femme musulmane, bien sûr, cherche à ressembler, elle va avoir deux péchés. Non seulement le péché parce qu'elle cherche à le ressembler, et en même temps le péché d'être parmi les femmes qui montrent leurs atours et qui sèment donc la turpitude et le dégât. Et donc elles font plus d'autres choses, mais ce sont deux péchés principaux dont elle va être responsable. Il y a une chouna kazalik, mais une asbab, nahi, elle mar'a. أن يتشبه بالفاسقات الكافرة ولا ينطبق على الرجال كذلك ولكن نحن نركز على المرأة لأن غالبا هي يعني هدف هؤلاء هم يهدفون إلى المرأة قبل الرجل لأن يعرفون أن صلاح المجتمع يعني منوط بصلاح المرأة ولذلك أن يحذر الأخوات من التشبه ومن التأثر بهذه الفاسقات والكافرات التي يظهرن في الشاشة التلفاز في ام تي في ويعني ومن المغنيات والممثلات وغيرهن من الفاسقات والكافرات. La sixième raison, le fait d'éviter tout ce qui mène vers la fitna, vers la tentation. Et il y a plusieurs éléments. Tout ce qui amène à la fitna, c'est la règle islamique qui s'applique ici, c'est le fait de couper le chemin, couper court à tout ce qui mène vers le haram d'une manière ou d'une autre. On appelle ça donc le fait de couper court à tout ce qui mène vers l'interdiction, même si parfois cette chose n'est pas interdite en elle-même. Mais si on sait qu'elle va mener vers le haram, elle prend le même jugement que le haram. Parmi ces choses-là, musafahatul mar'a, l'ajnabiyya, le fait de serrer la main à une femme qui m'est étrangère. Beaucoup croient qu'ils évitent, ils offrent un pas, ils croient qu'ils ne donnent pas la bille. Mais ils tendent la main. Alors que, il y a tout le fait de toucher la femme, comme on voit dans le hadith, c'est haram. Que ce soit la bille, ou toucher la main, ou autre chose, c'est haram. Le prophète Hassan dit, il y a une mud'an, fi ra'si ahadikum, d'une mahiyak, min hadith. Donc, si on transperce, on poignarde, on donne un coup, donc, dans la tête, dans le crâne de quelqu'un avec une épingle, en fer, ça lui est préférable que de toucher une femme qui lui est interdite. Donc il y a mieux d'an, c'est rassé avec une mahyat, une hadith, khayrun lahu, min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Donc c'est meilleur pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas permise, une femme étrangère. Et le hadith est rapporté par Tabarani, c'est un hadith authentique. Donc ici, il ne faut non plus pas négliger ces points-là. Deuxièmement, et ça malheureusement c'est un point qui est une épreuve pour beaucoup d'entre nous, surtout dans cette époque et dans ces endroits, c'est itlaqul basar, le regard, le fait de jeter le regard et de ne pas le baisser. Ça, bien sûr, c'est une grande épreuve pour beaucoup, vu ce qu'on voit autour de nous, etc. Mais c'est aussi justement quelque chose qui mène directement, qui est un très très grand. C'est un chemin, une pente très glissante, très dangereuse, qui mène, qui peut mener directement vers la turpitude. Donc, bien sûr, vous connaissez, pas besoin de citer tous les textes qui interdisent aux musulmans de regarder ce qui ne lui est pas permis, hein, etc. Idem, sabab al-sadi, qulna in tajannub, dawa'i al-fitna, wal-mu'assirat, wa min hadhihi al-awamil, من المؤثرات مصافحة المرأة الأجنبية وذكرنا الحديث والعامل الثاني والداعي الثاني للفتنة هو إطلاق البصر وكما تعلمون يجب على كل مسلم ويحرم أن يطلق بصره ويجب عليه غض بصره والعامل الثالث يتعلق ويخص المرأة وتحقيق الصوت. Le fait pour la femme, le troisième facteur ici qui amène à la tentation, c'est le fait d'enjoliver, d'adoucir la voix pour la femme. Et ça, parfois aussi, on voit beaucoup de sœurs qui font pas attention à ça. Quand on sonne, par exemple, elle prolonge un peu la parole avec un petit rire, un peu. Enjoliver sa voix au téléphone lorsqu'elle répond, etc. Ou dans les magasins. Hein, c'est allonger un peu la voix, tout ça, bien sûr, ça mène directement à la fitna, de manière directe. Donc, que ce soit au téléphone ou à fait, premièrement, la femme ne prononce pas, ne fait pas un discours, pas besoin de faire un discours, et aussi une voix normale. Pas enjoliver la voix, un petit rire, une petite blague, etc. Bien sûr, tout ça, ça fait partie de tafkir, as-sawt. Et Allah Azzawajal, vu l'importance là, cité dans le Coran. Bien sûr, en parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça s'applique à toutes les femmes. Dans le verset où Allah Azzawajal dit, فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْحَوْلِ فَيَسْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِ الْمَرَضِ. Il a interdit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de adoucir la voix. Il y a une erreur,
Donc d'aboutir la voie, car celui qui a dans son cœur quelque chose pourrait avoir une mauvaise convoitise. Celui qui a quelque chose à faire pour avoir une mauvaise convoitise, c'est ce qui se passe. Si la femme adoucit sa voix, etc., la personne peut justement être tentée par cette voix et se créer des images, etc., qui peuvent mener loin. Donc ça aussi, c'est une chose très importante. La quatrième point, et maintenant on va les citer rapidement, Inch'Allah, pour terminer, et surtout ces points ont tous, cela surtout mérite tous une conférence, c'est le quatrième facteur, donc dans la quatrième facteur dans la sixième, dans le sixième moyen de préserver la chasteté, non, on avait cité la sixième moyen de préserver la chasteté, c'était le fait d'éviter tout ce qui peut mener à la tentation. On a cité le fait, le premier facteur serrer la main aux femmes étrangères. Deuxièmement, on a cité le regard. Troisièmement, le fait de ne pas adoucir la voix pour la femme. Quatrièmement, la chanson, la musique. Vous savez que la chanson et la musique aussi, ça amène directement, comme on dit beaucoup de célèbres, c'est ce qui amène directement vers la fornication, vers la turpitude. Pourquoi? Parce que souvent, justement, la musique, ça affaime dans le cœur la tentation et la personne se relâche, etc. Et ça l'amène en général vers la turpitude. Mais bien sûr, la musique, etc., ça a besoin d'une conférence. Parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de musulmans qui malheureusement n'ont pas l'air de connaître le jugement d'Islam sur la musique. Ou alors, pas très bien, c'est pas clair pour eux, tout ce qui a trait à la musique, etc. Ça, ça nécessite vraiment une conférence, un livre en français. Et la septième raison, donc on a passé la sixième qui faisait qu'il y avait quatre éléments, dans laquelle il y avait quatre éléments, la septième raison, c'est le fait d'éviter la mauvaise compagnie. Et la compagnie qui influence dans le mal, pour les hommes et pour les femmes. Et ça aussi, ça a besoin d'une conférence, avec tout seul d'une importance de ce sujet. Et pour la dernière raison, et la huitième et la dernière, celle-là, elle n'a pas besoin d'une conférence, mais de trois ou quatre, c'est le fait pour la femme, il disait le hijab shar'i, de se parer de vêtements islamiques qui répondent aux conditions islamiques. Et ça, vu l'importance de cela, ça a besoin de, pas une seule conférence, mais deux ou trois. La première, le hijab, pourquoi? Pour montrer que Allah a ordonné le hijab, etc. Le fait que Allah a demandé à pousser les femmes à se doter du hijab, etc. Le mérite du hijab. La deuxième, les règles de jurisprudence qui ont trait au hijab. Là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de points obscurs chez beaucoup de femmes qui ne comprennent pas très bien c'est quoi vraiment le hijab qui répond aux conditions shar'i. Et on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Et s'il y a des questions sur le sujet, que les frères ou les sœurs les présentent. Et on essaiera de répondre. Donc c'est une très très bonne question, de manière pratique. Donc le frère dit, on a appris que c'est interdit de serrer la main à une femme étrangère. Il dit, voilà qu'il, dans la pratique, il y a souvent, on est confronté à des cas, soit malheureusement si ce n'était que le cas des femmes musulmanes, même des musulmans, qui te tendent la main, que faire? Premièrement, le musulman, il cherche à satisfaire Allah Azzawajal, et pas les créatures. Ça, c'est une première règle. Notre but, c'est toujours de rechercher l'agrément d'Allah et pas l'agrément des créatures. Donc, quoi que tu fasses, je vais avoir, Inch'Allah, citer certains points. Molek, même après, il te traite de ce qu'il te traite. Il te dit ce qu'il te dit. À la coulée, ça. Soit tu nous manques, tu as satisfait Allah Azzawajal. C'est ça, ton but est accompli. Deuxièmement, al-hikmah. À chaque situation, il y a sa solution qui lui est propre, appropriée. En général, si c'est des femmes musulmanes, tu vas lui dire, excuse-moi, mais c'est interdit dans notre religion, et tu lui cites par exemple le hadith, tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kada, kada. Et si elle est musulmane, normalement, elle doit comprendre. À moins qu'elle suppose ça, mais, voilà. Si c'est une femme non musulmane, lui expliquer gentiment, lui dire, excusez-moi madame, j'ai pas d'animosité
personnel envers vous. Je vous en veux pas bien, parce que parfois les gens comprennent ça. Toi, tu es humain parce que tu, quand tu l'aimes pas, elle, ou quelque chose comme ça. Non, moi, ça n'a rien à voir, c'est pas que je vous respecte ça, mais je ne peux pas, dans ma religion, par conviction religieuse, je ne peux pas toucher autre que ma femme. Pour limiter, tu dis, je ne peux pas toucher une autre femme que ma femme. Et c'est, gentiment, tu l'expliques ça. Inch'Allah, normalement, si c'est une femme, elle va comprendre. Et si après ça, elle veut clapoter, comme on dit, ben tu la laisses. C'est tout. Ou bien tu dis, comme un frère faisait, quand il était en cas, il dit, ouh, madame, ma femme est tellement jalouse. Si elle a appris que je me serrais la main, ça va être la catastrophe à la maison. Ça, c'est une autre solution aussi. Mais Allah, comme j'ai dit, donc c'est ça de l'expliquer, gentiment, dire voilà, c'est pas que je en veux ou quoi, mais par conviction religieuse, c'est tout, je ne peux pas toucher. Je me dis même pas serrer la main, je ne peux pas toucher les femmes, si ce n'est la mienne. Non, par conviction religieuse, et j'espère que vous comprenez, c'est ça, c'est pas, il y a rien de méchant. Et puis donne-moi le contrat pour que, on est arrivé. Regarde.
من
الخلوة يعني أنزل النساء أو أنزل الرجال الذين هنا عند قريب وعند قريبة وإذا مثلا كان سيرا وإذا وعنده يعني وإن كان مسلمة متنقدة ما يغير هذا صالح لا الخلوة ينطبق على الرجال والنساء سواء يعني الخلوة كل وضع يثير الريب يثير الريب مثلا تخرج من غرفة الذي يراك يعني قد هذا المنظر قد يثير عنده يعني شبهة هذا هو الخلوة بحيث إذا كنت يعني هكذا إذا كنت في مكان عمومي وجاءتك مثلا امرأة وأنت تحتاج شيء هكذا فما يكون ممكن هذا لا الله لا يعتبر خلوة حسب ما فهمت أنا لا يعتبر هذا خلوة لكن الخلوة لا حسب ما يعني يلاحظ يظهر من النصوص كذلك لو كنت في غرفة ربما لها نوافذ يعني إلى الخارج ولكن كما قلنا في محل يعني أنت مسحور شيء ما هذا كذلك الله لم يعتبر من الخلوة إذن العبرة والضابط هو إثارة يعني وإثارة الرضا إلى من يراك تخرج من هذا المحل كان من الإمكان ومن الممكن أن يقع شيء من هذه المرة بخلاف لو كنت في مكان علوم يعني المارون يمرون وكذا وأنت ليس على أن تستغفل في الحديث ولكن أقصد ليس في شبهة كل واحد يعني المارون يرونك ولكن في حتى في المحل التجاري كان مسكور شيء وكذا فهذا ينطبق الله أعلم هذا يسمى خلوة الله أعلم إذا الفريق ديزي parfois donc si pour ce qui est des cas de خلوة on a dit le critère والله أعلم الخلوة donc de l'isolement c'est le fait que ça provoque un doute chez ceux qui il aurait pu se passer quelque chose c'est ça même si il y a certaines fenêtres pourquoi mais par exemple c'est un peu caché et tout c'est que si la personne te voit le personnel ça provoque un doute il aurait pu se passer quelque chose والله أعلم c'est ça d'après ce qui apparaît des textes le خلوة même si c'est pas fermé entre quatre murs à clé, etc. Yani, tandis que, si on a dit, par exemple, si c'est dans un endroit, où il y a du passage vraiment ouvert, et que tu as besoin, par exemple, de demander quelque chose, sans commencer à discuter, mais où la femme a besoin de demander quelque chose à l'homme, ce qui apparaît, c'est que ça, ce n'est pas le couloir. Pourquoi? Parce qu'il y a, donc, c'est au vu, au-dessus de tout le monde, etc. Et après, le frère a dit, mais parfois, donc, la femme qui est malade, on ne trouve qu'un médecin, etc. Je lui dis à ce moment-là, ce n'est plus de considérer comme de l'isolement, parce que donc le mari est présent, mais c'est une négligence de la part du mari, parce qu'il aurait dû chercher auparavant à trouver une femme médecin. Ou alors, sauf, comme on a dit, si c'est dans le cas de nécessité, hein, de nécessité, par exemple, vraiment majeure, c'est que la femme est vraiment malade et elle est tombée malade subitement, et il a cherché toute femme médecin, etc., il n'a pas trouvé, à ce moment-là, c'est autre chose qui l'accompagne. Ça, bien sûr, ça rentre dans Darura. Hein, ça rentre dans, comme l'homme qui plonge pour sauver une femme, par exemple, de la noyade, etc. Ça, ça rentre dans Darura, donc dans la nécessité. Ce n'est plus Darura, Subih Mahdura, comme c'est connu. Donc Darura permet certaines choses qui sont interdites en temps de situation normale. Voilà. Donc les chants islamiques, ce qu'on appelle le nashi, même dire islamique, normalement, c'est pas vraiment juste, parce que l'anashi, c'est tout court. Au temps du prophète, il y avait des anashi, bon, on n'a pas dit islamique ou non islamique, parce que ça peut même être des paroles non islamiques, quand c'est terminé. Elle raconte, par exemple, des faits qui sont passés dans sa tribu, dans son... Tant que c'est pas interdit, les paroles ne sont pas interdites, c'est permis. Donc on dira islamique, bon maintenant, on a fait ça pourquoi par rapport à la musique interdite, on a des anashi islamiques. Voilà, c'est normalement des anashi tout court. Donc les anashi pour les femmes, ils sont permis, au contraire, ils sont recommandés dans certaines occasions. Comme le mariage, par exemple, le prophète dit la différence entre un mariage interdit et le mariage permis, c'est le bruit des doufouf. Donc le bruit des tambourins, donc le douf. Mais un tambourin, c'est un peu vieux, mais bon, douf, comme ça, je ne pourrais pas dire tambour, hein. Donc, douf. Aussi, dans, les occasions comme l'Aïd, donc l'Aïd, hein, connu, l'Aïd de la Tawad al-Fitr. Aussi, les savants ont dit, lorsque, il y a un grand événement qui se passe, comme par exemple, un grand savant qui revient, de quelque part, ou les hommes du djihad, par exemple, ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un hadith aussi où une femme avait juré, avait fait le vœu, donc de taper les tambourins et tout ça, quand le prophète s'est revenu vivant. Et lorsqu'il est revenu, elle lui a dit, voilà, j'ai juré. Elle a dit, est-ce que tu as fait donc un vœu pur et neuf? Tu dois expier ce vœu? Elle a dit oui. Elle a dit, alors fais-le. Mais sinon, on comprend que ce n'est pas vraiment recommandé, sinon, si elle n'avait pas fait ce vœu. Donc ça, c'est dans certaines occasions. Le plus, c'est dans le mariage et lors des deux fêtes. Pour les femmes, entre elles, et avec des doufous. Si c'est des jeunes, des petites filles, dont les voix ne font pas, donnent pas de tentation, il est permis à l'homme, par exemple, s'il se va d'écouter, pas qu'il recherche, par exemple, d'écouter, mais s'il l'entend, comme le prophète, ça s'est passé aussi, il était dans la pièce où il y avait, avec Aïcha, des petites filles qui jouaient, et il a recouvert son visage, il était couché, et il écoutait Abou Bakr rentré dans le hadith. Donc ça c'est pour les femmes. Pour les hommes, là c'est autre chose. Pour les hommes, non, il n'y a pas de doufouf, etc. Il y a par exemple de la poésie permise, de déclaration de poésie, ou alors de qira'at al-Qur'an. C'est ça qu'il y a pour... Wallah alam. Inch'Allah on va clôturer ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.